Avec qui vis-tu ce que tu dis?
Avec quelle communauté?
Ah oui.
C'est ça.
Avec quelle communauté? Ouais. Alors, il m'arrive donc maintenant, aujourd'hui, je vais au mariage, aux enterrements, tout ça dans ma communauté. Sinon, dans les communautés chrétiennes, en fait, moi, donc, je travaille beaucoup. Alors, je fais partie de Communion Tibérine. Nous sommes une communauté qui travaillons selon la spiritualité de Christian de Chergé. Et nous sommes des musulmans et des chrétiens qui avançons avec les textes de Christian de Chergé. Je suis très engagée et avec les jésuites. Donc, j'ai été longtemps dans une communauté vie chrétienne. Je suis très en lien avec le Centre Sèvres, où j'ai fait mes études de théologie pour comprendre justement cette histoire, si j'ai pu l'écrire. Et c'est aussi grâce au Centre Sèvres et à tout ce que ça m'a permis. Et puis, je suis très engagée dans mon travail. Moi, je travaille avec l'enseignement catholique, mais avec les congrégations, pas avec les diocèses, en fait, avec les congrégations féminines, parce qu'en fait, on est beaucoup plus libre qu'avec les évêques. Je veux dire, c'est clair. J'ai une liberté de parole et d'action qui me... Voilà. Donc, voilà. Mais je vis et j'ai une vie avec Dominique régulièrement. On va à la messe ensemble parce qu'on n'habite pas très loin, mais un peu loin de chez nous parce que c'est là où on y trouve chez les bénédictins, voilà, des moines dans la ville.
À Étiole.
À Étiole, voilà. Donc, voilà. Mais régulièrement, j'ai besoin, notamment à des moments forts de la communauté musulmane, d'être avec elle. Et quand elle prie, ben, je prie le Notre Père, ou je prie à la manière dont je prie aujourd'hui, je prie avec eux et à côté d'eux.
Raphaël, auditeur habituel de Questions d'Islam sur France Culture, je ne sais pas si vous avez été invité à cette émission. Ma question, quel est le Jésus qui se trouve dans le Coran en lien avec le Jésus que vous avez rencontré?
Le Jésus dans le Coran, Jésus, alors chez les chiites, je ne sais pas si chez les sunnites en fait, mais chez les chiites, le Jésus va revenir à la fin des temps, au jugement dernier, avec le 12e imam. Pas chez les sunnites, hein, parce qu'il n'y a pas le 12e imam. Donc, oui, le Mehdi, hein, celui qui va revenir avec Jésus pour juger à la fin des temps. Et il va, dans le cours, alors il faudrait que je retrouve dans mon livre, mais il va dans le... intercéder, je commence à ne plus trouver mes mots, excusez-moi, auprès de Dieu, pour que Dieu soit miséricordieux au moment du jugement. Jésus, si vous avez participé à des moments comme ensemble avec Marie, l'Annonciation dans le Coran, Jésus est un des plus grands prophètes dans le Coran. Issa, il est vraiment, et ce qui est refusé, c'est qu'il soit mort sur une croix. Il a été substitué sur la croix et il est monté directement au ciel. Donc, ce Jésus-là, moi, je l'ai rencontré, je l'ai respecté. Ce qui est, et là-dessus, comme diraient les jeunes de coexister, on ne sera jamais d'accord. On est d'accord qu'on ne sera jamais d'accord. Le Christ, pour les musulmans, ne sera jamais fils de Dieu. C'est juste impensable. Et ça a été pour moi quelque chose qui m'a régulièrement turlupinée. Et les études, la première dissertation théologique au Centre Sèvres que j'ai demandée, c'était « Qui est ce Dieu des chrétiens ?» Je ne vous dis pas la problématique telle qu'elle était, mais pour moi, il était important que je creuse et au Centre Sèvres, j'y allais pour dire, est-ce que ce Jésus que j'ai suivi, c'est un bon pote, c'est celui qui m'a aidé à l'adolescence, c'est quelqu'un dont la philosophie de vie me plaît, ou est-ce qu'il est vraiment Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Et c'est pour ça que j'ai commencé des études de théologie. J'avais besoin de répondre à cette question et de conceptualiser peut-être un peu plus les expériences que j'avais vécues.
Merci beaucoup, Shaina. Comment tes enfants le vivent ? Parce que...
Alors, mes enfants, ils ont été baptisés, tous les deux. Je pense que c'était l'ours qui portait, parce qu'ils ont quand même vécu tous les combats intérieurs que j'ai eu à vivre. Je crois leur avoir donné cette ouverture et ce respect de l'autre. On a des amis de tous bords, vraiment de toute religion. Il y a des passages, ils sont très, très... je crois qu'ils sont vraiment... Ils ont une hospitalité intérieure. Voilà. Bon, ils ont quitté... Quentin a fait sa confirmation. Charlotte a refusé de la faire. Les seuls moments où il m'accompagnait à la messe pour me faire plaisir, c'était à Noël et à Pâques, après l'âge de 16 ans. Et on allait à Saint-Méry pour essayer de leur faire vivre quelque chose. Mais voilà, je crois qu'ils ont une profonde spiritualité. Moi, je vois bien l'intériorité qu'il y a en eux, la manière dont les propositions de nos églises locales ne les ont pas satisfaits. Et ma prière, moi, aujourd'hui, d'abord, je souhaite que mes enfants, et j'essaye de le vivre, n'aient aucune pression et pas d'attente de notre part à l'égard de leur vie, et qu'on soit présent au moment important s'ils le souhaitent et à la manière dont ils le souhaitent. Ça, par rapport à peut-être aux pressions très fortes quand même que je me suis donnée. Et j'espère qu'ils trouveront sur leur route des personnes qui leur donneront le sens qu'ils cherchent à leur vie et combleront les soifs qu'ils auront. Je leur souhaite ça.
Juste petite précision, ils ont fait peur quand on demandait
de la fête ? Non, ils étaient bébés. On a fait, on leur a donné ce qu'on estimait bien et donc le baptême.
Alors, ça va peut-être paraître un peu étroit d'esprit après ce que tu as dit sur ta conversion au Christ, mais je me pose la question de... tu t'es quand même converti au catholicisme... Enfin, tu as eu comme cadre pour ta conversion au Christ l'Église catholique. Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question d'autres confessions chrétiennes ?
Non. Alors, j'aime beaucoup écouter, par exemple, Marion Muller-Collard. Alors là, pas de souci. Mais je ne me suis pas demandé si j'allais devenir, par exemple, protestante au moment où moi... L'Église, pour moi, quand elle ne se regarde pas le nombril et qu'elle est là vraiment pour servir les gens qui sont sur son chemin dans le monde, je suis avec elle. Moi, quand elle se regarde le nombril, je m'en vais et je vais ailleurs. Mais je veux dire, j'ai besoin de ce côté. Alors, je connais pas bien non plus les autres confessions, mais j'ai besoin de cette communauté. J'ai besoin de cette manière de penser même les sacrements. Je vais vous raconter une confession. Je sais que ça se raconte pas, mais je suis pas le sacrement de réconciliation, j'étais pas toujours à l'aise avec, mais j'y allais. Bon, de temps en temps, je vais pas dire que j'y allais très souvent, mais de temps en temps j'y allais. J'étais longtemps adjointe en pastorale dans un énorme établissement scolaire, et ce que je faisais des fois ne plaisait pas aux bonnes familles comme il faut, etc. Et puis le prêtre, il trouvait que mes célébrations étaient trop joyeuses et que j'acceptais un peu tout le monde, le tout venant dans mes célébrations. Enfin bon, bref, c'était des fois difficile et lourd à porter. Et je commençais mes études au Centre Sèvres Et un jour, je suis arrivée un peu en avance et je suis allée à Saint-Ignace me poser. Voilà, la messe était finie, je crois. Enfin, j'étais pas allée pour la messe, je me suis posée. Puis je vois deux portes ouvertes. À Saint-Ignace, à Paris, d'un côté, il y a juste un endroit où on peut parler avec quelqu'un. Et puis, il y a un endroit, une porte qui est ouverte et où il y a la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. Je me dis, tiens, ça va me faire du bien. Donc, j'y vais. Et puis, on commence comme il faut. Hein. C'était un vieux monsieur avec une canne. Puis, je commence en disant, voilà, j'ai des problèmes, je sais, je ne suis pas assez patiente, et puis je dis les choses trop vite, et puis peut-être que je ne fais pas assez attention à ceci. Puis alors j'étais là avec mon nombril et ceci, et ça ne va pas chez moi ça, et puis on me reproche ceci. Puis tout à coup j'entends, ça suffit. Et je me dis, c'est quand même la première fois que je me fais engueuler alors que je me confesse. Donc, je me dis, je ne dois pas dire les choses bien comme il faut. Et je dis, mais oui, mais voyez, le prêtre, il me dit. Et alors, ce vieux monsieur me regarde et dit, vous savez, votre péché, c'est quoi? Alors là, je me dis, c'est la totale, on ne m'a jamais fait ça. Je dis, je baisse la tête, je me complètement recroquevillée. Je me dis, quelle idée j'ai eue de venir, là, franchement. Et il me dit, votre péché, c'est de vous enfermer dans la bêtise des autres. Et alors là, je me redresse. J'ai un sourire comme ça. Et puis il me dit, bon, il faut être patiente, c'est vrai. Il faudra faire attention à ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a des urgences. Allez-y. Et puis il me fait tout ce qu'il faut. Je me lève, je danse. Et pour moi, c'est ça. J'en ai besoin d'un autre qui est médiateur et qui m'aide à me relever. Et il s'avère que l'Église catholique nous le propose. Mais je danse, je commence à partir et puis il y a les noms inscrits. Donc je me retourne, je vais vous dire qui c'était quand même, parce que c'était pas rien. Eh bien, c'était Bernard Cesboué. C'est un théologien jésuite. J'ai besoin de d'autres.
Shaina, ton chemin plein d'ouverture, de respect, de rencontre du Christ me fait en même temps poser cette question. Aujourd'hui, et à Strasbourg, on en a beaucoup souffert, un certain nombre de groupes de cathos, qui se disent cathos, font des grandes messes, célébrations, pour la conversion des musulmans au christianisme. Je me dis, comment tu reçois ça? Mais inversement, dans la réalité de l'islam, il y a aussi cette volonté de dire que si tu ne crois pas comme moi, c'est insupportable et tu n'es bon qu'à mourir d'une certaine manière. Comment, à travers ton chemin, tu vis cela? Et comment, finalement, solidairement, ensemble, on peut dépasser ces sectarismes institutionnels et religieux?
Je n'ai pas forcément de réponse. Je sais, parce que j'ai été appelée dans l'équipe, un peu comme soutien, comme aide au Service national des relations avec les musulmans. Et on a beaucoup travaillé la question du dialogue et de l'annonce, parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec la nouvelle évangélisation, avec le congrès mission et tout ce qu'il peut proposer, il y a 3-4 mouvements comme Ismeri, Jésus le Sauveur et un autre dont j'ai oublié le nom, qui se sont levés pour convertir les musulmans. C'est vrai. Chez les musulmans, une frange des musulmans qui ne travaillent pas, qui n'étudient pas, le diront aussi. Et effectivement, il y a aussi des musulmans, comme des chrétiens, comme vous le dites, qui croient que c'est leur vérité qui est la seule et l'unique. Moi, je ne sais pas comment. Moi, je ressens et je souffre de l'islamophobie qui se développe chez les chrétiens. un Mehdi Djihadi qui est invité partout, les musulmans, convertis qui témoignent sont plutôt ceux qui disent ben, « enfin j'ai trouvé le meilleur et la vérité et c'est là que c'est mieux et là, avant c'était pas bien c'est sûr que je ne sais pas comment faire, je souffre, mais on travaille. Alors il y a des gens qui travaillent, l'ISTR de Marseille est très engagé dans le dialogue interreligieux. Il y a de plus en plus de groupes interreligieux qui se lèvent. Le Service national des relations avec les musulmans est très engagé et très inquiet de ces mouvements identitaires. Vous savez, et aujourd'hui, les peurs sont de part et d'autre, instrumentalisées. Je pense que... il faut qu'on avance et qu'on continue du mieux qu'on peut, mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. J'ai été appelée régulièrement à aller, à cause de mon livre depuis un an, à tel ou tel endroit. Ben, à Lyon, par exemple, il y a eu une conversation avec Christian Delorme et on a discuté. Vous avez vu tout ce que j'ai pu dire. Et un monsieur, certainement très gentil, d'Ismery me dit « Et alors, comment vous faites maintenant pour évangéliser les musulmans ?» Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je crois profondément, c'est ancré en moi, et quand je vous parlais de la communion des saints tout à l'heure, et je vous lirai peut-être pour finir un petit texte de Christian de Chergé, je crois profondément que si Jésus est mort sur la croix, c'est pour offrir le salut à tous. Qu'on soit baptisé ou non. Je crois profondément qu'il y a plusieurs bergeries dans la maison du Père. Je crois profondément qu'il est allé chercher toutes les brebis, pas seulement celles de son enclos à lui. Et que ce salut offert à tous, moi en tout cas, dans ma profession, quand je suis dans les établissements, ce qui m'intéresse, ce n'est pas celui qui va à la messe, celui qui croit ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment je vais être présence d'évangile avec... Alors là, je suis très bien comme il faut, vous êtes super... mais j'ai plein de manques et plein de défauts. Hein, et je suis très, très pénible. Donc, mais quand je suis dans un établissement, moi, je souhaite... Et c'est comme ça que je prie quand j'arrive, en disant que je sois cette présence d'évangile, que je puisse regarder chaque jeune comme une promesse qui sera tenue, que je puisse dire à chaque adulte de mon établissement, quel que soit son chemin de vie ou de foi, tu as un projet de bonheur, ta vie vaut, elle a du prix, et tu es fait pour le bonheur. Et la joie en abondance, elle est pour toi. Et il n'y a rien de plus à dire. Il n'y a que ça qu'il est venu donner en mourant sur la croix. Que chaque homme peut devenir encore plus humain et approcher de la divinité grâce à lui. Ça, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Et c'est que ça qu'on doit offrir. Et qu'un athée dans mon établissement tienne debout dans la vie en ayant une colonne vertébrale et puisse faire des bons choix humains. Qu'un musulman, s'il le veut, devienne un bon musulman. Et que celui qui veut rencontrer le Christ, que je puisse réunir les conditions pour le faire. Mais après, c'est l'affaire de l'Esprit-Saint et c'est pas moi. Donc, moi, à part ça, je sais pas quoi dire. À part ça, je sais pas quoi dire. Et je ne suis pas là pour remplir les bancs de la paroisse.
On va terminer avec le texte.
Ouais.
On va finir.
Merci.
Et après,
une dernière question.
Oui. Ce n'est pas une question, je voulais juste remercier la vie pour ces témoignages extraordinaires d'aujourd'hui. Parce que vraiment, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, enfin il y en a plein quoi, qui sont très...
J'ai une question. J'étais au Maroc il y a pas très longtemps et j'ai entendu que le vrai nom du prophète c'était Muhammad ou Mohamed.
Mohammed.
Et la personne m'a expliqué que ça voulait dire digne de louange. Et il m'a aussi expliqué qu'en Occident, en France en particulier, on l'appelle pas comme ça, on l'appelle Mahomet. Et que Mahomet, il y avait un nom privatif au départ et ça voulait dire non digne de louange.
Je sais pas. Je sais pas. Je vais finir juste en vous lisant un tout petit passage de l'échelle mystique du dialogue de Christian de Chergé. L'au-delà de la communion des saints, où chrétiens et musulmans, et tant d'autres avec eux partagent la même joie filiale, il nous revient de le signifier visiblement, comme tous les autres mystères du royaume. Et comment s'y prendre autrement qu'en aimant maintenant gratuitement ceux qu'un dessein mystérieux de Dieu prépare et sanctifie par la voie de l'islam et en vivant avec eux le partage eucharistique de tout le quotidien. De plus, il me semble qu'en entrant dans l'urgence d'incarnation de cette réalité de communion qui nous dépasse tellement, on exorcise au mieux les relents de prosélytisme et cette idée fixe qui tend à réduire la conversion au passage d'une religion à une autre. Quand il y a passage, effectivement, c'est que Dieu est intervenu plus loin que les médiations humaines et cela aussi impose le respect. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit.